En ce 24 janvier, à Rencontre spirituelle, c'est un grand jour. On vous dirait que je dis ça souvent, mais ça l'est. En effet, aujourd'hui, encore une fois, c'est la fête de Saint-François de Sales. Un saint qui a été estimé, et vous verrez pourquoi, qui devrait l'être encore plus aujourd'hui, mais c'est pas facile à lire dans un sens, puisque son style devient un peu dépassé. Il a écrit au XVIIe siècle, mais il y a des ouvrages aujourd'hui qui paraissent sur la pensée de Saint-François de Sales et qui nous citent Saint-François de Sales dans des mots d'aujourd'hui. J'éviterai donc, d'ailleurs, de citer outre mesure des passages de Saint-François de Sales qui ont trop le ton du XVIIe siècle et qui font un peu mièvre parfois, mais la teneur, la solidité de sa pensée est extraordinaire. Restez bien à l'écoute, vous entendrez l'une des émissions les plus importantes de Rencontres spirituelles depuis le début de mai dernier, car la spiritualité de Saint-François de Sales est une spiritualité exceptionnelle. C'est aussi la fête aujourd'hui d'une veuve, la bienheureuse Paul Gambara Costa, qui est morte en 1515, et d'un religieux dominicain, Marcolin de Forti, mort au XIVe siècle, en 1387, à la même époque que le bienheureux Henri Suzeau hier. Et enfin, un évêque et martyr à Antioche, en Syrie, au IIIe siècle, en 250, Babylas, Saint Babylas. Je vous fais grâce de tout ça et revenons immédiatement à Saint-François de Sales. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. François de Sales appartient à la fin vraiment d'un siècle, et d'un siècle qui ressemble un peu au nôtre. Il y avait eu une renaissance audacieuse d'un paganisme qui a été contrebalancé par l'éclosion de toutes sortes d'œuvres catholiques comme on en voit surgir actuellement. Peut-être moins ici au Québec, mais on en voit surgir beaucoup à travers le monde actuellement, une renaissance catholique. Oh, vous direz qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Il faudrait lire les ouvrages religieux, les revues religieuses, comme Actualité religieuse à travers le monde, des revues extrêmement bien faites, qui nous remplissent d'espérance. Alors, il a conservé de cette renaissance catholique tout ce qu'il y avait de bon, puis a préparé lui-même un renouveau chrétien au XVIIe siècle. Il est né, François de Sales, au château de Sales, près de Torrance en Savoie, le 21 août 1567, et son père, qui avait le même nom, François de Sales, avait épousé la fille unique d'un monsieur qui s'appelait Melchior de Sionnaz, mais à la condition, imaginez cet homme, sans doute un peu snob, avait mis une condition, qu'il prenne le nom de la terre de Boisy, que sa femme apportait en dot. Alors, M. de Sales, le père, s'est souvent fait appeler M. de Boisy. Mais on évitera ça parce que ça complique les choses. Il était naturellement sincère, charitable, pieux. On dit ça souvent des parents. Et dans son cas, paraît-il que c'était bien vrai. Et le jeune François de Sales, lui, a profité des exemples de son père, qui était droit, ferme, bon catholique. Il a pris aussi les exemples de sa mère, qui avait une piété éclairée. D'ailleurs, il l'a appelé dans sa thèse de droit civil à Padoue, car il était devenu avocat. Il l'appelle Optima Carissima Prudentissima Mater. Ça veut dire mère la meilleure, mère très chère, mère la plus prudente, quoi. Donc, il aimait énormément sa mère. Et c'est très beau qu'un enfant puisse grandir avec l'admiration de ses parents et marqué par le père et la mère. Qu'on dise ce qu'on voudra, une famille bonne, intelligente, sincère, forme de bons enfants, en principe. À ses premières influences, d'ailleurs, il faut ajouter le spectacle de la nature, au milieu de laquelle s'est déroulée la majeure partie de son existence, la Savoie. J'espère que vous êtes déjà allé là, c'est superbe, c'est très beau, ces montagnes de Savoie. Hein? Je m'y suis beaucoup promené, même à pied. L'aspect grandiose des montagnes, d'ailleurs, la vie rurale. Vous savez qu'on y j'y ai rencontré, moi, en 1950, des jeunes Savoyards de 17-20 ans qui ne savaient pas parler français, parlaient de Savoyard, simplement la langue, ils gardaient les troupeaux, quoi. Encore en 1950. Les vallées, là, c'est très beau. Il y a des lacs dans les vallées. C'est magnifique, hein? Alors, il a grandi là-dedans. Et à 6 ans, bien, François de Sales a été envoyé au collège de La Roche, à 7 kilomètres de là. Puis de 8 à 11 ans, écoutez bien ça, c'est assez extraordinaire, hein, il est au collège d'Annecy. C'est à Annecy qu'il va fonder les Visitandines, avec sainte Jeanne de Chantal, là, sa dirigée. Bien, c'est à Annecy qu'il va recevoir la tonsure avant l'âge de 11 ans. Ça semble incroyable. Avant 11 ans. La tonsure, oh, il y en a beaucoup qui doivent se demander ce que c'est le signe qui fait que un laïc devient un clerc, destiné, en somme, au sacerdoce. On lui coupe un peu de ses cheveux sur le dessus de la tête, en signe de consécration à Dieu. Et alors, à Paris, à partir de 13 ans, il va continuer ses études, il est très brillant, hein? Il demande à aller au collège de Clermont, qui est tenu par les jésuites, plutôt qu'à Navarre, qui est réputé plus mondain. Alors là, chez les jésuites, c'est absolument fantastique, hein? On est au 17e siècle, il apprend l'escrime. Étrange, hein? L'équitation et même la danse pour plaire à son père. Il étudie aussi la théologie pour lui-même. Et c'est un enfant brillant, intelligent, normal, mais profondément religieux. Et alors il va au pied d'une statue de la Sainte Vierge. Il s'engage par vœu à la chasteté perpétuelle. Vous direz, ça n'a plus de sens, ça n'existe plus, c'est insensé, surtout avec les émissions de télévision où on enseigne à nos jeunes de 14-15 ans. Comment on dit en langage vulgaire, comment cruiser? Ça a passé dimanche soir, ça. Insensé. Et alors, lui, c'est le contraire. J'ai vu aussi à la télévision des centaines de jeunes Allemands et de jeunes Américains. Ils n'avaient pas tous l'air des imbéciles, loin de là, hein, qui s'engageaient à la chasteté non perpétuelle, mais à la chasteté jusqu'au mariage. Des garçons, des filles de 20 ans, 22 ans, 17 ans, 16 ans, ça se fait aujourd'hui par centaines et par centaines et par milliers. Mais on n'en parle pas beaucoup dans nos journaux. Et vers l'âge de 18 ans, atteint d'une violente tentation de désespoir, il en a triomphé au pied de la même statue où il est allé se confier à la Sainte Vierge. À Padoue, Padoue c'est près de Venise, hein? Il faut aller à Padoue. Et là qu'est enterré Saint-Antoine dans un tombeau magnifique, très beau, très sobre. Et son père l'envoie là, donc, pour y prendre le grade de docteur en droit. C'est un jésuite qui dirige son âme. Encore les jésuites qui le forment, qui le marquent. On conserve d'ailleurs de cette période un texte qui s'appelle « La règle de vie », qu'il a pratiqué avant de l'écrire. C'est une ébauche, ça, de son fameux livre « L'introduction à la vie dévote ». C'est une ébauche aussi du directoire spirituel puis du fameux traité de l'amour de Dieu. Je vous donne les titres, car on les voit partout, hein. L'introduction à la vie dévote, le traité de l'amour de Dieu. Ce sont des classiques qu'il faut lire, si possible, dans des traductions plus modernes, hein, ou dans des adaptations. C'était écrit en français, mais en tous les cas, c'est le français du temps. Il revient à son pays natal, en Savoie, en 1592. Après avoir visité Rome et les principales villes d'Italie, il a 25 ans. Et grâce à un travail soutenu, grâce surtout à sa sainteté vraiment précoce, il fait la joie de ses parents, de son père surtout, qui lui donne la seigneurie et le nom de Villa Roger, lui fait subir l'examen d'admission au titre d'avocat au Sénat de Savoie, lui propose même un mariage très avantageux, mais notre jeune François de Sales montre sa ferme résolution de prendre Jésus-Christ comme la part de son héritage, dit-il, et il refuse toute dignité qui lui est offerte, en particulier celle de sénateur de Savoie. Le prévôt, en d'autres termes, le doyen du chapitre des chanoines de Genève, était mort. Alors, il y avait un chanoine qui s'appelait Louis de Sales, qui était parent, a saisi l'occasion pour obtenir l'assentiment de son père. 3 semaines plus tard, eh bien, notre jeune clerc, notre jeune séminariste, si vous voulez, on appelle ça un jeune clerc, a reçu les ordres mineurs. Déjà, 4 jours après, il a reçu le sous-diaconat. 3 mois ensuite, il a reçu le diaconat. Après 3 autres mois, il a reçu la prêtrise. C'était en 1593, il avait 25 ans. On faisait les choses assez rapidement. On faisait les choses rondement, quoi. Saint François de Sales peut être regardé comme un des hommes les plus accomplis qui a existé. De sa naissance noble, il a gardé toute sa vie Les habitudes d'un gentilhomme, ses contemporains d'ailleurs sont d'accord, pour faire remarquer. Son charme, sa grâce, sa distinction et même sa beauté. Il avait un maintien attrayant, paraît-il, des grands yeux intelligents. Il avait un regard à la fois brillant et doux, comme illuminé par le rayonnement d'un esprit qui était toujours attentif. Il avait un front large, une belle barbe qui encadrait l'ovale de son visage, qui était grave. Mais il avait un doux sourire, très fin, très bienveillant. Il avait une grande aisance aussi. Un peu de lenteur, ça lui donnait comme un peu de majesté. Mais ça lui permettait de plaire et aussi de s'imposer. On comprendra la réflexion de l'évêque de Belley. Je suis déjà allé à Belley parler à l'évêque qui avait écrit un très beau, l'évêque moderne d'aujourd'hui, qui avait écrit un très beau livre sur le curé d'Ars, alors que je préparais une émission sur le curé d'Ars. Très jolie petite ville, Belley. Et l'évêque de Belley disait dans ce temps-là, j'en sais qui frémissait à son abord, non tant de la crainte de lui déplaire, que de la crainte de ne pas lui plaire. Alors il gardait de l'homme du monde une belle politesse, une manière adroite de faire ses compliments. Il avait aussi suffisamment de connaissances pour se plier aux réalités dans l'intérêt du bien. Il acceptait les choses. Mais il gardait au besoin son sang-froid. Il avait de l'audace. Un jour, à Padoue, imaginez, c'est absolument fantastique, hein, des jeunes vauriens ont voulu non seulement se moquer de sa sainteté, mais ont voulu le maltraiter, le battre. Alors il a sorti son épée, il les a mis en fuite. Donc c'était un saint qui avait du cran. C'était pas une poule mouillée. Les jésuites en ont fait d'ailleurs un fervent de la littérature. Sous leur conduite, il a su allier la culture ancienne, antique, avec le plus pur et le plus ardent des christianismes. À l'époque où il étudiait, l'humanisme était en train de perdre là, cette espèce de relent de paganisme qui avait dressé contre le christianisme, contre ce christianisme de cette époque, des grands chrétiens un peu partout, qui étaient inquiets des tendances qui pénétraient le christianisme. Alors, jeune homme, François de Sales, lit Montaigne, puis il l'admire. En marge des résumés qu'il fait d'Aristote puis des grands écrivains de l'Antiquité, il copie les paroles de l'Écriture, de la Bible et des pères de l'Église. À l'université de Padoue, où l'espèce de mariage, où la synthèse de la culture antique et de l'idée chrétienne était réalisée depuis longtemps, mais il était plongé dans une atmosphère qui était vraiment ce qu'on appelle une atmosphère humaniste, mais belle, riche. La sainteté l'a rendu bon, une grande bonté. Prise dans la meilleure acceptation du mot, là, pas une bonté niaiseuse. Une bonté composée de douceur, de tendresse. Ça faisait dire que Dieu doit être bon si Monsieur de Genève, on l'appelait comme ça, est si bon, parce qu'il était directeur ou chef de l'ensemble des chanoines qui auraient dû chanter l'office à Genève. Mais Genève était sous l'emprise des protestants à ce moment-là. Il était quand même évêque de Genève avec résidence en France, de l'autre côté de la frontière. Alors que Dieu doit être bon si Monsieur de Genève est si bon. On a peut-être tort de le prendre trop à la lettre quand il dit qu'il était naturellement très violent. Pourtant, il avait bien ça dans son écriture. Les saints ont l'habitude de se charger eux-mêmes, je vous l'ai dit hier, hein, quand ils parlent de leurs défauts. Mais il n'était pas indolent, il n'était pas coléreux, il était d'un naturel sensible et très prompt à vibrer. C'est dans les textes d'un livre que j'ai chez moi, Copie non conforme, qui est extrêmement intéressant, on fait l'analyse graphologique des saints, on dit malgré ses tendances à l'irascibilité, tout était si ordonné chez François de Sales, si tranquille, et la lumière de Dieu si claire dans sa vie qu'il réussissait à contrôler le moindre de ses mouvements. Il avait des tendances à l'irascibilité, c'était marqué dans son écriture jusqu'à sa mort. Chose étrange. Alors donc, il est prévôt du chapitre des chanoines, la dignité dont il est revêtu, la première après celle de l'évêque, quoi. Lui était une raison de se dévouer davantage, alors il se donne à toutes les œuvres sacerdotales, comme prêtre, avec une ardeur incroyable. Il visite les pauvres, soulage les malades, il confesse, le sacrement de la réconciliation, il prêche beaucoup. ça aurait suffi à remplir tout son temps. Il prêche à la cathédrale, dans les paroisses, dans les petits groupes. Il ne s'est rien refusé. Son père lui dit, tu prêches trop souvent. En 1535, les protestants de Berne, Berne c'est la capitale de la Suisse, ils ont envahi le Chablais où il résidait, c'est en France. Ils avaient interdit le culte catholique. Ils avaient chassé les prêtres. Et ça me fait rire parce que moi j'ai amené à la foi catholique la fille du président de Suisse, avec résidence à Berne donc. D'ailleurs les funérailles de son père c'était grandiose à Berne. Et ma filleule préférée c'est Madeleine Hafner de Berne. Mais elle vit maintenant en Arizona. Très catholique. La grâce de l'Esprit-Saint n'a pas manqué son coup avec ma filleule Madeleine. En 1593, après la conversion de Henri IV, le duc de Savoie était rentré en possession, mais le premier curé missionnaire qui l'avait installé était obligé de quitter. Et là, à l'appel de son évêque, François de Sales part sans argent, sans escorte. Il s'installe pour essayer de prêcher à Thonon. Puis une nuit d'hiver, il est assailli par des loups. Il se réfugie sur un arbre où on le trouve le lendemain matin et il est gelé. Un protestant tire sur lui, mais le fusil rate. Il passe ensuite sans être aperçu au milieu d'assassins, encore des protestants qu'il poursuivent. C'est la guerre des religions, quoi. C'était pas drôle à cette époque. Heureusement, aujourd'hui, on donne la main aux protestants et on les aime. Heureusement. Nous sommes des frères, séparés malheureusement, mais frères, frères et sœurs. Alors, on le cherche, François de Sales, dans une chambre où il est, mais on le voit pas. Mais on vient peu nombreux pour l'entendre. Comme il peut pas se faire écouter, il essaie de se faire lire. Il compose des tracts. Alors il y glisse un peu partout. Et tout ça, on les rassemble. Ça devient un livre des controverses. Et puis des gens qui ont consulté tout ça disent que, à l'époque, que c'était aussi bon que les écrits de saint Athanase, de saint Ambroise et saint Augustin qui ont su défendre la foi catholique. C'est fort possible parce que c'était un homme extrêmement brillant. Malgré cela, donc, après 7 mois de prédication, les gens bien embourgeoisés s'entendent pour jamais aller l'écouter. Alors, il obtient enfin quelques conversions isolées. Et là, les ministres protestants, ils les convoquent à une séance publique. Mais ils refusent de s'y rendre. Ils voudraient discuter avec eux. Et à 3 reprises, heureusement, à Genève, ils discutent avec le fameux Théodore de Bèze, cet illustre protestant dont je voudrais bien vous parler un jour, un homme admirable. Il l'a presque converti. Enfin, après 3 ans de labeur et de dangers extraordinaires, François de Sales peut présider à Thonon la cérémonie des 40 heures pour la première fois. 40 heures d'adoration du Très-Saint-Sacrement. Dans une région où il y avait beaucoup de protestants. On a encore à cette époque d'ailleurs défense de l'étendard de la Sainte-Croix qu'il a composé en 1598, cette même année-là. Et dans laquelle il prouve que si Dieu seul a un droit absolu à nos adorations. On ne peut adorer que Dieu. Il est juste, dit-il, de rendre un culte, mais un culte relatif, là, à certaines créatures, spécialement à quoi? Bien, à la croix. On avait des reliques de la croix de Jésus-Christ. On peut la vénérer. On appelle ça l'adoration. Mais c'est pas une adoration, c'est évident. J'ai horreur, moi, dans la liturgie, quand on dit « adorons-le, adorons-le ». On n'adore pas la croix, on la vénère. J'ai hâte que dans la liturgie, on change ces mots-là, le Vendredi Saint. Saint François de Sales est habillé très solidement et avec une érudition très en avance sur celle de son époque, la vérité, de l'usage que l'on a fait des images de la croix. Puis de l'emploi aussi des choses matérielles dans tous nos rapports avec Dieu et l'homme. On se sert d'eau bénite, on se sert de crucifix, etc. Je trouve ça très beau, c'est très humain. Nous sommes des êtres humains, on a des mains, on a un corps, on peut bien se toucher avec de l'eau bénite pour apporter à la mémoire notre baptême, cette grâce fantastique qu'on a reçue au moment du baptême. On peut tenir une croix, un crucifix, l'embrasser. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes des êtres humains. Saint François de Sales a écrit encore à la même époque un traité sur la démonomanie, imprimé peut-être sur le nom, croit-on, du fameux père de Bérulle. Il avait intitulé le traité des énergumènes, et je suis bien d'accord. Il avait écrit aussi des dissertations sur l'Eucharistie, la virginité de la Sainte Vierge, du sermon des lettres des mémoires. Et là, il devient évêque de Genève. Avant la fin de la mission là, du Chablais, de cette région de France, l'évêque de Genève considérait déjà que François de Sales était comme son coadjuteur. Alors la mission, les prédications là, terminées, il l'oblige, malgré sa résistance, à accepter cette charge d'évêque coadjuteur. Après une maladie assez grave, saint François de Sales fait le voyage à Rome, puis celui de Paris, où il y a des affaires qui l'appellent. C'est la partie française de son diocèse qui l'appelle à Paris, parce qu'à l'époque, les gouvernements des États avaient beaucoup de pouvoir sur les diocèses et sur la nomination des évêques. Mais il prêche partout à Paris. Il donne le carême à la cour. De toute façon, je vous fais grâce de toutes les prédications fantastiques, mais il confère avec la fameuse Madame Acari sur l'établissement des Carmélites en France, dont je vous ai parlé en vous parlant de la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy un jour. Et puis, il presse aussi M. de Bérulle de fonder une espèce de grand séminaire, une société qui serait vouée à la formation, à l'éducation du clergé. Ça manquait beaucoup. Puis il opère de nombreuses conversions. Même Henri IV, le roi, admire son éloquence. Il voudrait le retenir. Alors, il a été consacré évêque à Annecy le 8 décembre. Et pendant sa retraite préparatoire, là, sa consécration comme évêque, ils font des retraites, avant de, ils s'enferment, ils prient, etc. Alors, il a rédigé là le règlement de vie qu'il s'est imposé comme évêque de Genève. C'est pas des farces, En exil à Annecy, là, dans le sud de la France, où il est resté longtemps dans une maison qu'il avait louée, il n'a rien changé à la pauvreté de ses habitudes. Cet homme noble, né dans un palais, dans un château, vit comme un pauvre même évêque. Il dit d'ailleurs, je cite, qu'un évêque doit être chaque jour à l'autel, très souvent en chair, c'est-à-dire pour prêcher, là, on appelait ça la chair autrefois, très souvent en chair, jamais dans les sociétés et les divertissements publics. J'aime bien ça, jamais dans les sociétés et les divertissements publics. Il y a tellement de mondanité dans ces endroits-là, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Un évêque intelligent qui a du sens commun peut fort bien aller dans ces endroits-là et rendre l'Église présente dans des milieux où on l'oublie trop. Il fait le catéchisme aux enfants. Il prêche non seulement dans sa cathédrale, mais dans les plus petits villages. Il assiste aux heures canoniales, les chanoines qui prient ensemble, à moins d'empêchement. Il fait, malgré la neige et le froid le plus intense, la visite de tout son diocèse. Et par sa douceur, il gagne tous les cœurs. Il a converti énormément de protestants, et c'est connu, François de Sales, à l'époque de cette séparation tragique entre protestants et catholiques, a ramené à l'Église, comme on dit nous dans le terme catholique, a ramené beaucoup de ces protestants qui voulaient faire une réforme de l'Église, mais malheureusement dehors de l'Église. Il a fait tous ses efforts pour bien former ses prêtres. Et à défaut de séminaire, il établit des examens sérieux. Il écarte même les candidats qui sont indignes. Il réunit plusieurs fois son clergé en synode. Et il faut dire qu'il a instruit, il a ému en prêchant. Il a évité toutes les manières mondaines de plaire. Il faisait chaque année sa retraite spirituelle avec son grand ami Pierre Camus, évêque de Belley, qui nous a conservé d'ailleurs le meilleur de leurs entretiens dans un très bel ouvrage qui s'appelle L'Esprit de Saint-François de Sales. J'en ai une copie de l'époque. C'est magnifique à lire, puis une très belle table analytique à la fin. Et son zèle à François de Sales dépasse les limites de son diocèse. Il prêche partout. Il est extraordinaire et sa sainteté resplendit partout. Alors on a vu que son zèle comme évêque dépasse les limites de son diocèse et puis il prêche un peu partout. Et puis il accompagne à Paris en 1618 le cardinal de Savoie, de la région d'où il est donc, qui vient pour bénir le mariage du prince de Piémont avec Christine de France, sœur du roi, fille d'Henri IV. Et écoutez bien ça, sa renommée à François de Sales y a précédé. Dès le lendemain son arrivée, le 11 novembre 1618, il est invité à prêcher dans l'église des prêtres de l'oratoire, on appelle ça l'oratoire à Paris. La foule est si grande qu'il est forcé d'entrer par une fenêtre. Mais par humilité, il se contente de raconter tout simplement la vie de Saint-Martin. Saint-Martin de Tours, dont je vous ai déjà parlé. Le prestige de sa sainteté est tel qu'on l'accueille partout avec vénération, et écoutez bien ça, on s'estime heureux de pouvoir toucher son vêtement. Ça vous rappelle pas quelque chose, dans l'Évangile, quand les gens étaient tout fiers de toucher le vêtement de Jésus? Pendant l'Avent, à Saint-André-des-Arts, ça existe toujours à Paris, ça, les cardinaux, les prêtres, les princes ont peine à trouver place. On l'invite partout, et partout, il accepte. Si bien que tu comptes fait, en un an, il a donné 365 sermons, auxquels il faut ajouter nombre d'entretiens, de visites qui convertissent les protestants. Il rencontre le père de Condran, Saint-Vincent de Paul, Angélique Arnoux, la fameuse abbesse de Port-Royal, qui pense à le suivre en entrant chez les visitandines qui la font aimer. François de Sales prédit la chute d'Angélique Arnoux. C'est vrai qu'elle va sombrer. Le cardinal de Retz, qui est évêque de Paris, lui demande d'être son coadjuteur, mais on lui offre énormément d'argent, des bénéfices énormes. C'était comme ça à l'époque. C'est triste, mais c'est comme ça. Il refuse tout. Il préfère la simplicité et la pauvreté. C'est un directeur d'armes, c'est un maître de vie spirituelle. La cesse chrétienne, dit-il, consiste dans l'usage de nos ressources naturelles pour nous conquérir nous-mêmes. Il s'agit de se conquérir soi-même et accomplir la volonté de Dieu sur nous. Et puis, la cesse chrétienne est en dépendance directe de la conception de l'idée qu'on se fait des rapports de Dieu et de l'homme. Alors, saint François de Sales, qui est un homme de génie, qui possède le sens de la discrétion à garder en tout, c'est un homme équilibré et qui a beaucoup étudié, et en qui, par conséquent, sont venus se réunir tous les courants de la littérature dévote puis de la littérature ordinaire du siècle. Alors, ce que 15 siècles d'études religieuses nous avaient transmis dans l'Église, parfois très confusément, ben lui, il clarifie tout ça. Ben, à la base, donc, de son système, il y a la persuasion que Dieu met à notre disposition une grande abondance de moyens de salut. C'est vrai que nous avons une grande abondance de moyens de salut que nous négligeons de façon terrible. Il commence à le dire dans la protestation qu'il a écrit après avoir été délivré de la tentation de désespoir qu'il a atteint à un moment donné. Il va redire, sous toutes les formes, dans tous ses écrits, que la grâce de Dieu ne nous manque jamais. Oui, la grâce de Dieu ne nous manque jamais si nous ne lui faisons point défaut, dit-il. Dieu est toujours là. C'est nous qui faisons défaut à Dieu. Il dit, ne craignez point Dieu, car il ne vous veut aucun mal. Aimez-le fort, au contraire, car il vous veut beaucoup de bien. Dieu est le Dieu de joie. Bon, je répète, hein, Dieu est le Dieu de joie. Bon, si on souriait davantage, on avait l'air heureux. Les gens penseraient peut-être que nous, catholiques, on a une tête, ses épaules et le cœur à la bonne place. Et Dieu dans le fond de notre cœur. Et s'il faut trembler quelquefois devant Dieu, à la présence de qui, dit-il, les anges même trémoussent, c'est son expression, eh bien que l'amour prédomine dans notre vie, hein. Que cet amour soit le commencement et la fin de nos considérations, dit-il. Alors si tous, hommes et femmes, sont appelés au salut, tous peuvent donc pratiquer la dévotion qui en est le chemin et le grand effort de son ascèse, et l'on peut dire son originalité, étant donné l'étrangeté de la chose à la fin du 16e siècle. Nous pouvons tous être pieux, c'est-à-dire avoir la piété au fond de notre cœur, c'est-à-dire reconnaître Dieu et l'aimer avec lui, François de Sales. La piété n'est plus le monopole des moines, des gens qui vivent dans le désert, des ermites. C'est pas le monopole des religieux, des religieuses qui vivent dans des cloîtres. La piété doit achever et couronner la vie naturelle de tout chrétien, dit-il, et la piété ne peut donc consister en toutes sortes de pratiques nombreuses et compliquées. Non. Vers la fin du 16e siècle, il y avait tout un formalisme rigide qui s'était introduit, qui tendait à faire de la religion un simple culte. Alors François de Sales l'a fait consister, lui, dans la culture de l'homme, la culture. Se renseigner, lire, écouter Radio Ville-Marie, quoi. Une culture qui doit chercher la gloire de Dieu par une vie meilleure, non par une espèce d'attitude extérieure rigide, là. D'ailleurs, on raconte que les serviteurs de Madame de Chantal, avant qu'elle fonde les Visitandines, étaient riches. Mais ces serviteurs disaient que son premier directeur la faisait prier 3 fois par jour, puis ils en étaient ennuyés. Mais ils disent que François de Sales fait prier Jeanne de Chantal tout le jour, et cela n'incommode personne. Parce qu'on peut prier dans la joie, le sourire aux lèvres. Si tout cela rend plus simple la conquête du ciel, dit-il, cela ne la rend pas plus aisée. Hein? Il écrit, la dévotion n'est autre chose qu'une agilité et une vivacité spirituelle, par le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous, et nous par elle promptement et affectionnément. Voyez le style, c'est compliqué. Mieux vaut lire des traductions modernes. Ça, c'est dans l'introduction à la vie dévote, c'est au livre 1, chapitre 1, au tout début. Mais les mots de cette définition doivent être pris dans son sens le plus complet, le plus profond. Il faut les lire attentivement, c'est très compliqué. Mieux vaut lire, je vous le répète, des traductions contemporaines. Alors, les dévotions particulières n'ont d'autre utilité que de nous faire atteindre, dit-il, la dévotion fondamentale. Quelle est-elle? Oh, il se moque, lui, des dévotions qui ne font faire aucune bonne œuvre pour Jésus-Christ, dit-il, avec lesquelles on reste méchant et plein de défauts. D'ailleurs, quand il parle de la Sainte Vierge, je risque de blesser du monde, là, mais je ne veux pas blesser personne, je parle de Saint François de Sales, hein? Quand il parle de la Sainte Vierge, il ne veut pas qu'on la représente comme le Moyen-Âge, qui en faisait une personne interposée entre Dieu et l'homme, et arrachant des mains de Dieu les plus audacieux pécheurs, et les sauvant, pour ainsi dire, malgré lui, malgré Dieu, et malgré eux. Il disait, c'est pour aimer davantage le Fils, pour lui plaire qu'on doit aller à la Sainte Vierge. C'est vrai, hein? La Vierge est tant aimée et chérie de Dieu, écrit-il, qu'on ne peut bien aimer le Fils que si pour l'amour de lui on aime extrêmement sa mère, et que si pour l'honneur du Fils on honore excellemment la mère. Je disais, je vous l'ai dit déjà, un protestant, si j'allais vous visiter, je ne parlais pas à votre mère que vous m'avez présentée, que diriez-vous? Il est normal de parler à Marie, qui est la mère de notre Sauveur. Elle est digne du titre de la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Elle est digne de toute notre révérence, de tout notre amour. Cela revient à dire que pour être chrétien, il faut avant tout aimer. Il dit, tout est à l'amour, en l'amour, pour l'amour et d'amour en la Sainte Église. Je le répète, c'est trop beau. Tout est à l'amour, en l'amour, pour l'amour et d'amour en la Sainte Église. C'est la préface au traité de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui insistent sur les macérations. Hein. Saint Jérôme a semblé, il y a des siècles et des siècles, donner la première place à la chasteté. Lui. Saint François d'Assise insistait sur la pauvreté. Saint Bernard sur la mortification. Saint Benoît, que j'ai bien aimé, j'ai été bénédictin 2 ans, noviciat quoi. Sur le zèle liturgique, ça ne m'a jamais quitté, ça. C'est toutes des vertus qui supposent l'amour. Pour François de Sales, l'amour est à la fois le terme auquel il faut aboutir et le moyen de l'atteindre. C'est en aimant qu'on aime, quoi. L'amour affectif, d'abord. Commencer par un amour affectif, qui doit tendre à l'amour effectif, puis le rendre plus facile. Hein. Il disait, une faute est grave, surtout si la défaillance d'amour qu'elle implique. Un acte est bon surtout par l'élan d'amour qui l'accompagne. S'il n'y a pas d'amour, il n'y reste plus rien. Nous sommes des cymbales retentissantes, c'est Saint Paul qui le dit, c'est dans la Bible. Mais il répète les mêmes choses. On dirait qu'on a donc de la misère à le comprendre, même aujourd'hui. Hein. Il dira très rarement, évitez ceci ou cela. Il dit pas ça souvent. Il dit plutôt, agissez, faites. Agissez dans les intentions les plus élevées. Il est vain d'être anti, dit-il. D'être négatif. Si Dieu apparaît, non comme un justicier, donc, mais comme un père aimé, à qui l'on veut plaire, et qui dirige nos progrès, mais tout notre effort doit se porter à lui procurer cette satisfaction suprême et donc devenir meilleur. En un mot, François de Sales identifie la religion avec la perfection de la vie. Oui, la perfection de la vie en soi. et dans les autres aussi. Par l'apostolat, comment faire que les autres soient meilleurs? Bien, il faut être des apôtres. Il faut se grouiller, il faut bouger. Parce qu'il considère tout ça comme le couronnement de la cèse. Il veut qu'on se rende bon pour servir les autres. Que la dévotion soit aimable, oui, aimable, pour amener à Dieu. Il n'y a rien comme une sœur souriante. C'est une sœur souriante à l'Hôtel Dieu qu'a converti mon père, qui n'avait guère la foi. Il est mort d'une façon si chrétienne. Me disait l'avant-veille de sa mort, « Oh, Raymond, demande-lui donc à ta Sainte Vierge, mais il avait gardé son vocabulaire, hein. Demande-lui donc à ta Sainte Vierge qu'elle vienne me chercher, puis elle est venue le chercher. » Or, pour arriver à tout cela, cet amour-là, il veut la culture de toutes les facultés. Hein. Il est un homme complet. Comme Don Marmion, dont je vous parlerai la semaine prochaine, ce grand bénédictin du début du siècle, qu'il disait, avant d'en faire des saints, il faut en faire des hommes. Parlait de ses moines. Hein. À l'abbaye de Maritsu, il avait 130 moines à l'époque. C'était immense. Hein. Il parlait de la culture de l'esprit par la science. Et ses écrits prouvent qu'il savait ce que l'on savait de son temps. Non seulement dans les sciences sacrées, mais dans les sciences naturelles aussi. Il y avait une culture du cœur aussi pour les affections humaines. Il disait, un homme ne cessera, si vous voulez, c'est toujours son style, c'est le langage d'autrefois. Bon, je traduis en français d'aujourd'hui. Un homme ne cessera jamais d'être tout à son père, tout à sa mère, tout à Dieu, tout à ses enfants, tout à ses amis, en sorte que, étant tout à chacun, il sera encore tout à tous. Jamais aucun amour n'autre nos cœurs à Dieu, dit saint François de Sales, sinon celui qui lui est contraire. Donc, culture même du corps, ajoutait-il, qu'il faut aimer, il faut aimer notre corps comme une image vivante de celui du Sauveur incarné, disait-il. Il ne s'agit pas de détruire notre cœur, notre corps et de le rendre malade. Il faut le soigner. On a des émissions là-dessus ici à Radio Ville-Marie, le vendredi à 5h. Culture surtout de la volonté, qui doit vaincre les passions qui nous habitent. Et il lui attribue un pouvoir régulateur souverain, dit-il, hein, la volonté. À condition d'y mettre du temps, de l'énergie, des efforts. Hein. Mais il insiste beaucoup sur l'oraison. Oh, il n'élève pas l'oraison plus haut que la messe, qu'il nomme le soleil des exercices spirituels. Il parle beaucoup de l'examen de conscience aussi, les sacrements, en particulier la communion fréquente, pour laquelle il est très en avant sur la pratique de son temps. Il parle aussi de la direction qui est très importante, les prières vocales. Tout cela suppose dans le fidèle une plus grande abnégation qu'on ne le croit généralement. C'est par la forme attrayante qu'il veut donner à la piété, il l'humanise, pour ainsi dire. Et dans ses lettres, il dit souvent « Je veux absolument cela » et sans réplique, il est décidé. Hein. Il faut pas trop appuyer, dit-il, sur la suavité de sa doctrine. Il préfère considérer que la suavité, c'est l'aiguille qui aide à faire entrer le fil. C'est une pure erreur de considérer d'ailleurs que saint François de Sales avait rendu nécessaire la réaction janséniste. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Son enseignement est magnifiquement chrétien et catholique. Son introduction à la vie dévote, qui est parue en 1609, l'édition définitive revue par saint François de Sales est parue en 1619, eh bien, c'est un exposé extrêmement important. D'ailleurs, l'ordre est des plus simples, et après avoir montré le but à atteindre, la vraie dévotion, il indique le moyen essentiel pour y arriver, qui est l'esprit de prière. Il étudie ensuite les vertus qu'il faut pratiquer. Puis les obstacles qu'on doit vaincre. Et il termine par quelques conseils pour ce que nous appelons la retraite annuelle. Rien comme une retraite annuelle, que j'aime bien faire dans des monastères personnellement. J'en ai fait un peu partout en France dans des monastères et je ne regrette rien de toutes ces vacances que mes amis considéraient comme perdues parce que je passais 3 semaines, 1 mois dans un monastère. Il n'y a rien de perdu là-dedans. C'est rien de bien nouveau, on vous dirait. Ben, il rassemble toutes sortes de vérités jusque-là éparses et confuses à son époque. Hein. Il condense en quelques pages ce qu'on pourrait appeler l'essence de la morale chrétienne qui est répandue dans les 2 testaments de la Bible, hein. Puis dans toute la tradition de l'Église. En somme, il a profité de sainte Thérèse d'Avila, de Louis de Grenade, sur lequel je prépare une belle émission. Il a profité du fameux livre « Le combat spirituel » qu'il lisait tous les jours à Padoue. En somme, il a remporté un énorme succès. C'est la mère de Chantal, Sainte-Jeanne de Chantal, qui disait « L'introduction à la vie dévote, c'est un livre que le seul Esprit de Dieu a dicté. » Même Jacques III, roi d'Angleterre, a laissé un exemplaire où il a souligné les pages qui l'invitaient à la confiance. De Saint Paul aussi. Même le pape Alexandre VII, Bossuet, Louis XIV a lu ça. C'était incroyable. C'était très, très populaire jusqu'à il y a 30 ans, parce que la langue est tellement ancienne, j'en entends beaucoup moins parler aujourd'hui. Ça, c'est l'introduction à la vie dévote, mais il y a aussi le traité de l'amour de Dieu, qui est excellent. Où il y a des choses tellement belles, je ne saurais trop vous en parler. En tout cas, c'est l'ouvrage qui est un des plus beaux livres de philosophie religieuse que le XVIIe siècle nous a laissé. Le plus beau, peut-être, selon Brémond, le fameux auteur qui a tout analysé la littérature religieuse pendant les, surtout de cette époque. C'est l'œuvre du plus grand spécialiste, on peut dire, pour enseigner l'amour. Et il a même été déclaré docteur de l'Église à cause de ce livre, Traité de l'amour de Dieu. Madame de Chantal disait que ce livre résout toutes les difficultés de la vie religieuse. Saint Vincent de Paul, lui, le qualifie d'œuvre immortelle et très noble. D'ailleurs, même des protestants ne l'ont apprécié. Il y a aussi ses entretiens, la correspondance, des œuvres diverses. Tellement d'œuvres extraordinaires qu'il a écrites. Il écrivait d'ailleurs à un moment donné, et c'est presque bouddhiste, « Ne rien demander, ne rien refuser et ne rien désirer. » Ça s'applique aux petites choses. Hein? Ne rien demander de petites choses. Moi, il n'y a rien qui me fatigue plus que les gens qui me demandent « Veux-tu des carottes ou des petits pois? » Mais mon Dieu, j'ai pas le goût de demander ou de désirer des choses comme ça. Mon désir, je le dresse, je l'espère, à des choses plus intéressantes. En somme, cet évêque de Genève, Saint-François de Sales, surtout pendant les dernières années de sa vie, avec une correspondance très étendue, hein? Des fois, il y avait 40 lettres qu'il avait écrites et qu'il devait partir. Il a écrit aussi les constitutions de la monastère de la Visitation qu'il a fondé avec Sainte-Jeanne de Chantal. Il a beaucoup écrit. Il y a des éditions diverses de ses œuvres. Je vous conseille fortement, moi, un livre qui n'est pas trouvable partout. C'est le livre du chanoine Vidal que j'ai trouvé chez les Visitandines à Paris. Ça s'appelle « Aux sources de la joie » avec Saint-François de Sales. « Aux sources de la joie ». C'est publié par la Nouvelle Librairie de France. Rue de Rennes, qui est une rue importante à Paris. Et c'est paru il y a 20 ans. Donc, le chanoine Vidal, « Aux sources de la joie » avec Saint-François de Sales. C'est écrit, le livre est en vente au monastère de la Visitation d'Annecy et de Paris. Donc, il y a des Visitandines au Québec. Peut-être qu'en disant à votre libraire de vous adresser là, vous le trouverez. Il y a des tables de matière extrêmement intéressantes. C'est remarquable et admirablement bien fait. Où il y a aussi des vies de Saint-François de Sales superbes qui ont été publiées récemment. Alors donc, son œuvre complète peut faire 20 volumes et davantage. Il y a de la recherche souvent, je vous l'ai dit dans le style. Hein? Dans l'introduction à la vie dévote, il y a parfois toutes sortes de comparaisons qui peuvent nous fatiguer aujourd'hui. Dans le traité de l'amour de Dieu, des expressions sont mieux choisies. Mais moi, ça me fatigue parfois un peu. Ben, il y a bien des gens qui aiment ça encore. Hein? Lorsqu'on ouvrait son tombeau, racontent les historiens, un parfum envahissait la ville d'Annecy, se répandait aux alentours. Sa langue était si parfaite qu'on dirait que son corps répandait tout ce qu'il avait de beauté, de splendeur dans son âme. On peut dire que les reliques de son esprit vivent toujours dans l'Église. Sa pensée a nourri des millions de chrétiens. C'est extraordinaire. Saint Vincent de Paul l'appelait, son œuvre, surtout l'introduction puis le traité, là, un évangile parlant. Saint Alphonse de Liguori le cite fréquemment, le considère comme son guide. Au XIXe siècle, Les évêques insistent pour que le titre de docteur lui soit conféré. Un grand nombre de religieux, de religieuses et de prêtres se réclament de son patronage. N'oubliez pas les missionnaires d'Annecy, surtout les Salésiens. Salésiens, ça vient de François de Sales. C'est ces congrégations immenses fondées par Don Bosco. Il y en a des Salésiens au Québec, mais il y en a tellement en Amérique du Sud, dans le monde entier, c'est immense. Il y a aussi les Oblats de Saint-François de Sales. Les Oblates de Saint-François de Sales. En tout cas, c'est à Sainte-Jeanne de Chantal qu'il faut demander la caractéristique de sa sainteté. Elle dit, il se tenait. Il se tenait dans le train commun, c'est-à-dire dans la façon ordinaire de vivre. Il faut toujours expliquer le langage de cette époque. Mais elle ajoute, mais d'une manière si divine et si céleste qu'il me semble que rien n'était si admirable en sa vie que cela. Il était une image vivante en laquelle le Fils de Dieu notre Seigneur était peint. Et elle-même, elle indique à qui veut voir clairement l'état de cette très sainte âme, dit-elle, les trois ou quatre derniers chapitres du 9e livre du traité de l'amour de Dieu. Elle dit, il y montre en effet comment la volonté meurt à elle-même pour vivre en la volonté de Dieu. Il est mort à Lyon, à 54 ans, tout jeune, mon Dieu que je trouve ça jeune, moi qui vais avoir 70 ans, le 28 décembre 1622. Évidemment qu'on peut pas fêter le 28 décembre, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on le fête aujourd'hui, le 24 janvier. Son corps a été amené à Annecy, où il est encore. Il avait écrit dans son testament spirituel, « Je n'ai plus de foi dans mes extases, car je vois. » J'aime beaucoup ça, moi. « Je vois. » Avoir la foi qui permet de voir, on se situe à l'intérieur de notre être. Regarder une hostie levée par un prêtre et voir le corps du Christ. C'est la foi qui nous donne cette grâce. Il dit, je n'ai plus d'espérance car je commence à posséder. Et la charité seule me reste pour me joindre à vous, mon Dieu, qui êtes la charité même. C'est sans doute l'un des saints qu'avec un sens parfait de la mesure, m'apparaît avec François d'Assise avoir mieux compris, expliqué, puis réalisé dans sa vie ce qu'est la morale évangélique. Il a été béatifié en 1661, puis a été canonisé en 1665. Il est déclaré docteur de l'Église par Pie XI en 1877. Il a été fêté à un moment donné le 29 janvier. Mais depuis le concile, c'est le 24 janvier. C'est beaucoup plus de sens. C'est Monseigneur Dulst dont je compte vous parler un jour. Il n'était que l'abbé Maurice Dulst dans ce temps-là. Il avait 25 ou 26 ans. Il a prononcé au siècle dernier un panégyrique de François de Sales. On le trouve dans ses mélanges oratoires. C'est un immense prédicateur, Monseigneur Dulst. Un jeune orateur tenu au riz de Bossuet, il dit, un préjugé assez commun fait de la douceur le caractère principal de la dévotion telle que l'a prêché ce grand maître François de Sales. Il semble que Dieu l'ait envoyé sur la terre aux confins du Moyen-Âge et des temps modernes pour ôter à la croix ses clous. J'aime bien ça. Pour ôter à la croix ses clous, à la vertu ses épines, pour substituer à la dure loi du renoncement et de la mort l'onction d'une suavité céleste, et pour accommoder le joug de l'Évangile à des mœurs moins capables d'en supporter le poids. Eh bien, dit Monseigneur Dulst, non. Écoutez bien ce qu'il va dire. Le trait distinctif de la doctrine spirituelle de saint François de Sales n'est pas la douceur quand même. La douceur à tout prix. Non. C'est la vérité. Saint François de Sales n'a pas cherché la loi la plus douce, mais la plus vraie. Lorsqu'il parut, les mœurs, les institutions, les pratiques extérieures gardaient encore partout l'empreinte de la croix, quand la vertu cachée s'en était déjà retirée. Qu'a fait Saint François de Sales? Ce qu'avait fait avant lui un Saint Ignace, une Sainte Thérèse, un Saint Jean de la Croix, ces trois grands maîtres espagnols de la spiritualité chrétienne. Il a protesté hautement contre l'hypocrisie. Et François de Sales a dissipé l'illusion. Il a écarté les vains palliatifs. Il a porté la hache à la racine. Il a ramené la vérité dans la dévotion. Et il a dit, ce que Dieu vous demande, c'est votre cœur. La dévotion, c'est le dévouement. Dès lors, la dévotion n'est plus une vaine apparence, elle est une vivante réalité. Elle n'est plus le privilège de certaines conditions, c'est la haute inspiration de toute vie qui veut appartenir à Dieu. Et Mgr Dulce termine, ou l'abbé Dulce, « Elle a son siège au cœur. Tout homme qui sait aimer peut aspirer à cette hauteur. » On prêchait bien au 19e siècle. Prêchait bien.